bonjour.
Bonjour.
Vous nous faites l'honneur de venir sur le podcast de l'histoire de la cyber française. Pour rappel, l'histoire de la cybersécurité française, ce podcast a objectif de parler des jalons importants de la cybersécurité à travers une date et une personne à interviewer, et qui mieux que vous pourrait parler de la loi Godefroy. Monsieur le ministre, je vais vous laisser vous présenter.
Oui. Disons que je suis natif du sud-ouest, né à Toulouse, vivant dans l'Aveyron, département de ma famille maternelle, dans un milieu rural, et même paysan. Et j'ai fait des études à Toulouse, j'ai quitté Toulouse à la fin des 4 ans, des bac plus 4 en sciences éco, et 3 en sciences politiques Toulouse. Je suis monté à Paris, comme on dit, pour un petit provincial. Et à Paris, donc, j'ai clos ma période d'enseignement supérieur par un doctorat, un DES, ça s'appelle un DES, maintenant ça va porter un autre nom, mais qu'importe, de sciences économiques, voilà. Et aussitôt après, j'ai travaillé dans une entreprise de moteurs d'avion, la Snecmac, devenue Safran depuis. J'ai fait, pour faire l'étude de marché d'un avion futur qui aurait 2 couloirs, qui serait moyen courrier et qui s'appellera Airbus. Donc j'ai vu Airbus sur le papier, voilà, comme ça. L'A300, c'était l'A300 à l'époque. Et donc, 18 mois à l'époque de service militaire, mais comme professeur du contingent à l'école du matériel à Bourges. Et à Bourges, j'ai enseigné à des jeunes aspirants, principalement, montés du rang, et qui, par la suite, ont dû terminer leur carrière pour les meilleurs colonels, et ce qui est bien pour des jeunes qui sont engagés, et puis qui ont passé le doctorat de droit, ce que je leur avais enseigné, l'école militaire de Bourges étant rattachée à l'université de Tours, si je me souviens bien. Bon. Et après la Snecma, étant donné que j'avais donné des chiffres très proches de la réalité future sur le nombre d'Airbus capable d'être vendu, si vous voulez, en Europe, une compagnie aérienne est venue me chercher en me disant « Vous savez assez bien prévoir les trafics aériens de passagers. On vous embauche, on vous prend. » Donc, j'ai expliqué à la Snecma où j'allais, qui va devenir Safran quelques années plus tard. Et je suis donc entré à l'UTA, qui était une compagnie privée française spécialisée dans l'Afrique noire et l'Extrême-Orient, la ligne de Singapour-Papeete, et où là aussi j'ai suscité la création de 4 ou 5 escales nouvelles, donc Malte, dont Bahreïn, Mascate. J'ai réintroduit cette compagnie à Saigon pendant la guerre où j'ai vécu un petit peu pour installer un vol par semaine en provenance de Sydney. Air France ayant 3 vols par semaine et nous 1. Air France était en 747 et nous en DC-10. Et puis d'autres lignes. J'envisageais, moi, Johannesburg, La Réunion. J'envisageais aussi Taipei, mais pour des raisons diplomatiques, nous n'avons pas ouvert Taipei parce que la Chine continentale était très hostile à ce que la compagnie et les ailes françaises se développent sur cette île. Et je crois que j'ai dû faire 2 ou 3 autres escales. Voilà. Et après, Jacques Chirac est venu, que j'avais connu avant, mais dans d'autres circonstances, il n'était pas élu du tout. Je m'appelle et me dit, la 3e circonscription de l'Aveyron, c'est-à-dire celle du Larzac, du fromage de Roquefort, des gants de Millau, enfin, qui était celle où mes grands-parents tenaient un magasin où il y avait des exploitations agricoles, à des parents à moi. C'était là où j'avais passé toute ma jeunesse, si vous voulez, en dehors de Toulouse, à la fac. Eh bien, il m'a dit, le député en place, je le connais bien, il est assez âgé. Si c'est toi qui as l'investiture, il se retirera. Et il l'a fait très loyalement. J'ai donc été candidat en 78, aux élections de 78, à ces élections, où j'ai été élu au 2e tour, et puis toutes les autres, J'ai été élu au premier tour parce que bon, le public, les électeurs me sentaient à l'aise au milieu d'eux.
Ben oui.
Voilà. Ça compte. Voilà, et puis, même chose, même appel de Jacques Chirac, et il me dit, en 95, lorsqu'il a été élu président pour la première fois, il me dit, tu peux faire un saut à l'Élysée ? Je lui dis, oui, pourquoi, il y a quoi ? Je te le dirai. Bon, j'arrive à l'Élysée, il m'a dit, la coopération. Tu vas être à la coopération. Il ne m'a pas demandé si j'acceptais. Hein. Il m'a dit, tu seras à la coopération. C'est exactement ce dont je rêvais, parce que, il le savait d'ailleurs, parce que c'est l'Afrique, parce que ce sont des territoires passionnants sur le plan humain. Mmh. Je pense que les Africains, ils sont humains et fidèles à l'amitié. Bon, voilà, j'étais ministre de la coopération pendant 2 ans, puis une malencontreuse dissolution de l'Assemblée a fait que bon, ben, c'est quelqu'un d'autre qui a pris ma place au ministère et qui a été très, très bien. Enfin, je n'ai rien à redire sur son travail. Et depuis, je continue à être passionné par l'Afrique. Voilà.
Toujours passionné par l'Afrique.
Et le développement en général. Voilà.
Et à la fin des années 80, la cybersécurité, le mot n'existait pas. Hein. C'était quoi le paysage de la sécurité informatique ?
Il n'y avait pas.
Il n'y avait pas.
Il n'y avait pas. Parce que, alors, j'entre dans le vif du sujet. Disons, ça pouvait intéresser qui ? Ceux qui avaient des fichiers ou des données confidentielles. Or, qui a des données confidentielles ? La banque. Et quand il y avait déjà des fraudes, il ne fallait surtout pas le dire. Une banque qui annonce qu'elle a été piratée, c'est sa clientèle qui s'enfuit. Et ça ne donne pas confiance dans cet établissement bancaire. Donc, surtout, on ne dit rien. Le moindre organisme, non, la sécurité sociale à l'époque ne l'était pas, mais c'était principalement le milieu bancaire qui redoutait la très mauvaise publicité que peut faire à l'établissement l'annonce qu'il y a eu une fraude. Voilà.
D'accord, donc c'était...
Mais au début, j'ai eu du mal. Oui. J'ai eu du mal. Alors, il y a un milieu qui m'a quand même beaucoup soutenu, je dirais, moralement, et pour que cette loi soit écrite et puis sorte, c'est le milieu des assurances, si je me souviens bien. Ouais. Mais le milieu bancaire voulait garder presque secret le fait d'avoir été piraté.
À quel moment vous vous êtes dit qu'il va falloir créer une loi sur
la sécurité
informatique ?
Quitte à vous surprendre. Ouais. Bon, ben moi, je suis député, je m'intéresse aux textes de loi sur l'agriculture, je m'intéresse aux textes de loi sur des choses de tous les jours pour nous tous. Mais j'ai un ami que j'avais rencontré tout à fait par hasard, un journaliste dans l'Aveyron, qui était journaliste à VSD. C'était un magazine hebdomadaire, vendredi, samedi, dimanche, je voulais dire, VSD, et qui m'appelle et qui me dit, dis donc, tu es libre là ce soir ? Je lui dis, oui, je crois qu'il n'y a pas de texte particulier à l'Assemblée, donc j'ai mon temps. Mais écoute, je passe te prendre, je t'expliquerai. Je lui dis, mais où ? Attends. Mais tu verras bien. Alors, il m'attend en bas, dans sa voiture, il me dit, bon, je te prends une voiture, mais ce que j'ai à te montrer, tu ne peux pas savoir où c'est. Tu ne peux pas. Donc on va s'approcher, mais à une certaine distance de l'endroit où on va, je te banderai les yeux, je ne veux pas que tu saches où on va. Surprise, je lui dis, écoute, quand même, c'est ma parole que je ne dirai pas. Ça ne fait rien. Je ne peux pas. Je ne peux pas te dire où on va. Bon. Effectivement, c'est une histoire de... Alors... À un moment donné, c'est vrai qu'à un moment donné, il s'arrête, il est vers la porte de Versailles. Je ne vois pas du tout où on est. Puis on perd très vite ses repères quand on a les yeux bandés en voiture. Il tourne à droite, 3 fois à gauche, essayer de voir dans ma tête. Mais on perd très vite le fil du lieu où on va. Il s'arrête à un moment donné. J'entends la voix d'un gardien. Et il lui dit, vous avez votre laissez-passer ? Il dit oui, le voilà. Bon, d'accord. Ben alors, j'entends le portail qui s'ouvre. Ben c'est hallucinant. J'entends un portail qui s'ouvre. On fait, je ne sais pas, 200-300 mètres avec la voiture. On s'arrête. Il vient me chercher. Il me prend par le bras. Il m'a dit, je ne peux pas du tout te dire où on est. C'est secret. Mais on va y aller. Alors, on monte quelques marches. Il y a un deuxième filtre avec... et mon ami journaliste donne, je pense, un nom de code ou un truc comme ça. Je suis. Il y a une troisième porte. Et là, je ne vois pas du tout où on est dans cette pièce. Alors, j'enlève le bandeau de mes yeux. Il y a une porte matelassée. Nous entrons avec troisième laissez-passer. Et là, je vois une grande salle, très grande salle allongée, d'un endroit plutôt cossu, qui est la salle principale d'un conseil d'administration de l'entreprise.
D'accord.
Et au lieu qu'il y ait la grande table au milieu, comme dans tous les conseils d'administration, il y a une grande table avec des gens sérieux autour. Pas du tout. Cette table a été repoussée sur tout le périphérique, si vous voulez, de la pièce. Mmh. Et je vois, à l'époque, c'était l'époque, vous savez, des petits ordinateurs où on lisait... Ça a disparu, ça, depuis. J'ai oublié. Bref, devant chaque poste, il y avait un écran de cette taille à peu près, un clavier, et puis je regarde quand même sur les écrans, ce qu'il y a sur les écrans. Je vois d'abord beaucoup de jeux vidéo. D'accord. Ils faisaient pas les jeux vidéo. Hein.
Oui.
Je sentais bien qu'ils les copiaient.
Ah oui.
J'ai compris qu'ils les copiaient. En observant bien, puis je suis passé à du plus lourd. C'est-à-dire que j'ai vu des calculs d'un avion de combat qui est à la mode en ce moment, dont on cite beaucoup le nom en ce moment.
D'accord, oui, je vois lequel.
C'était un échange, c'était une bourse au logiciel. Une bourse au logiciel. Vous envoyez un qui vous intéressait sur quelque sujet que ce soit, d'ailleurs. Résistance des matériaux, ce que vous voulez, avec le prix, la mise à prix. Puis c'était une sorte de... Comment dirais-je, de vente comme au plus offrant, si vous voulez.
Vente aux enchères.
Vente aux enchères, voilà, cherchez-moi. Vente aux enchères. Et puis voilà, le gars,
très sensible,
il repartait avec des logiciels, à mon sens, pour certains d'entre eux, secrets.
Ah oui. Wow.
Alors, mon copain, il ne fallait pas oublier qu'il était journaliste. Donc, lui, ce qu'il voulait faire, c'est deux pages dans sa revue. Avec des photos. Et donc, il s'est mis... À l'époque, les portables n'avaient pas encore d'appareil photo. À l'époque, c'est ancien. Donc, ça se voyait quand quelqu'un prenait une photo, il sortait un appareil. Et puis, éventuellement, même, il y avait un flash. Et c'est là où les gardiens de cette grande pièce ont repéré notre manège. Hein. On ne voulait pas photographier de façon voyante. Nous ont foutu à la porte. Et mon copain m'a dit, on s'en sort bien parce que c'est ce que je faisais là, j'aurais pu avoir de gros ennuis. Donc on est reparti comme on est arrivé. Et je crois me souvenir, mais il faudrait voir dans la collection de VSD si ça existe encore, les deux pages qui ont paru la semaine d'après. Il y a eu deux pages sur un endroit dans Paris où il y avait une vente aux enchères tous les soirs de logiciels.
Wow.
Et ça a commencé comme ça, voilà.
D'accord.
Vraiment, c'est une anecdote à laquelle
c'est incroyable, c'est une histoire de film.
Incroyable, incroyable, incroyable. Alors quand même, ça a éveillé mon attention. Bon, j'en ai parlé à quelques amis. Et puis mon copain journaliste m'a dit, alors qu'est-ce que tu fais maintenant que tu as vu ça? Alors je lui ai dit, est-ce que c'est interdit? Il me dit, bah oui, en principe, oui, parce que c'est une atteinte au droit de propriété intellectuelle. Mais il n'y a pas de texte... qui prévoit une punition particulière, enfin une sanction. Je savais, comme ça, parce que ça m'intéressait un peu quand même, je savais qu'il y avait un hacker, un fraudeur allemand de Berlin, je crois, qui avait lancé en Europe toute une série de fraudes de copies, sans droit, de logiciels. Alors que celui-ci, il était quand même assez pisté, parce que certains avaient porté plainte. Il devait arriver au Bourget quelques jours plus tard, et je crois qu'à son arrivée au Bourget, il a dû être ou arrêté, ou en tout cas questionné par la police française. Mais il n'y avait pas de loi sur laquelle s'appuyer, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Et en Europe, il n'y avait rien.
Il n'y avait rien du tout.
Rien du tout.
Donc en Europe.
Rien du tout. Voilà. Alors c'est là où il m'a dit, écoute, tu es député, si tu penses que c'est très grave, fais quelque chose. Et effectivement, J'ai donc, pendant un an, il m'a fallu un an pour réfléchir à une loi. Mais une loi, si vous voulez, originale, enfin pas ordinaire. Une loi dans laquelle il y aurait le fait que celui qui est piraté, la victime, ça peut être de sa faute à lui s'il ne s'est pas protégé. Alors je donne un exemple. J'entre vraiment dans le vif du sujet. Bon, vous êtes dans votre bureau, il y a votre écran devant, sous vos yeux, vous y travaillez, puis quelqu'un passe dans le couloir et vous appelle. Vous sortez dans le couloir pour bavarder 3 minutes, mais vous avez laissé votre écran allumé et la porte ouverte. S'il est prouvé que vous avez commis ce manquement à un geste de sécurité, c'est de votre faute. Donc, si vous voulez, la victime peut devenir l'auteur à cause de ça. Ça, c'était très original. C'est la principale modification, enfin, oui, nouveauté qu'on a introduite.
Ce qui amène la sécurité et aussi la sensibilisation à sécuriser ses propres affaires, oui, tout à fait.
Alors, ça a été. Alors, bon, moi, je suis député de Millau, hein, dans l'Aveyron, là où il y a le Tiaduc maintenant. Et j'en parle. Il y avait à l'époque, il y avait le tribunal. Maintenant, il est inclus dans celui de Rodez, la préfecture, mais qu'importe. Il y avait un magistrat, il y avait un procureur, il y avait un juge d'instruction. Enfin, il y avait un tribunal complet à Millau. Bon, comme je suis député du coin. On a toujours des rapports dans les ouvertures avec les notabilités, hein, c'est normal dans ces sous-préfectures. Et un jour, j'en parle au procureur. Je lui dis vous connaissez la nouvelle loi là? Ah non. Je veux dire, il porte. Alors en plus, elle porte mon nom, alors il savait encore moins. Et je me suis aperçu que, au fond, ça n'intéressait pas tellement la magistrature. Ah. Parce qu'il y avait eu. Il n'y avait jamais eu d'enseignement sur le sujet. Du coup, ce procureur en a parlé. Et ils m'ont demandé d'aller pendant une matinée à Paris, un centre de formation des jeunes magistrats, leur expliquer tout ça. Mais il n'y avait pas un ouvrage sur la sécurité cyber, rien. C'était tout à fait nouveau.
Tellement avant-gardiste, en fait, alors qu'aujourd'hui...
Oui, c'est venu au fond d'un de mes copains, il s'appelait Jean-Louis Courleux, je vais citer son nom si c'est possible.
Ah oui, volontiers.
Vous l'aurez je pense, sur Wikipédia ou je ne sais où.
Enfin, bien sûr.
C'était un garçon très enthousiaste pour ce qu'il faisait, il s'intéressait à tout ce qui était nouveau en matière de technologie. Donc c'est grâce à lui, au fond, qu'on a baptisé, on a lancé cette loi. Voilà.
Ça, c'est... Ah oui, donc,
c'est... un souvenir... Pour un député, c'est important parce qu'un député est là pour faire des lois ou voter des lois ou faire voter des lois qui correspondent à notre vie quotidienne, je veux dire. Bon, ce qui est normal, tu vois. Eh bien là, pas du tout. C'était inconnu du grand public et même du petit public et même des magistrats. Ouais, alors.
Les magistrats ne le connaissaient pas. Voilà. Et est-ce que vous avez eu des résistances au niveau du Parlement? Parce que j'imagine alors, que...
Du Parlement, non. Je craignais que le Sénat... n'apprécie pas que ce soit l'Assemblée qui ait pris les devants, mais non. Enfin, j'avais parlé au président du Sénat de l'époque, qui m'a dit non, au contraire, même, et ça a été sur les deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat, voté à l'unanimité.
Très bien.
Sans problème.
Voilà. Et est-ce que vous pensez que ça a permis, cette loi, qui était en avance sur son temps, de structurer aujourd'hui un monde cyber-criminel
Oui, parce qu'elle est simple. Si vous en prenez connaissance, puisque vous la connaissez, mais elle est toute simple. Je veux dire, et pourquoi elle n'a pas vieilli? Pourquoi elle est applicable encore aujourd'hui? Parce qu'elle est simple. Vous voyez, on n'a pas fait une loi avec des dérogations, sur ce point-là. Pas du tout, elle est toute simple. Les articles sont simples, ne s'enferment pas dans la progression des technologies. Voilà. Donc,
Donc selon vous, il y aurait des choses à modifier maintenant, vu que le monde, je crois qu'on arrive à presque à 6 000 milliards aujourd'hui, le coût des incidents cyber, de la cybercriminalité.
Si, on pourrait modifier, s'il le fallait, l'échelle des peines.
Voilà.
Je veux dire, à l'époque, c'était une amende très forte Éventuellement, il y avait dans les cas très graves peine de prison qui était prévue, mais très, on n'insistait pas. Aujourd'hui, vu l'ampleur du phénomène que vous venez de citer, là oui, il faudrait peut-être modifier l'échelle des peines.
Oui. Bon. Et rendre peut-être un peu plus forte pour dissuader. Oui. Comme vous le savez, dans le monde de la cyber, il y a les hackers. Et c'est vrai qu'on a, alors nous qui avons une école, on a tendance à dire que les jeunes hackers, il faut aussi, enfin les jeunes tout court, les sensibiliser. Parce que, comme on dit, on a les chapeaux noirs, les chapeaux blancs, les chapeaux gris. Et souvent, c'est très limite.
Ah, tout à fait. C'est très limite, effectivement.
Très limite.
Parce que c'est un passionné, le jeune hacker. Voilà. C'est un passionné. Et puis un jour, il découvre qu'il a copié sans droit, qu'il est entré sans autorisation dans un système.
Tout à fait.
Et voilà, il est fautif sans qu'il l'ait voulu. Il y en a d'autres qui l'ont voulu vraiment. Entrer sans droit dans un système, c'est le béaba, quoi.
Oui, bien sûr. Et puis après, ça donne un effet de pouvoir. Donc, et c'est facile.
Et oui, on en arrive même aux otages informatiques. Je veux dire que vous entrez dans un système, et puis vous dites à la caisse d'allocation familiale, je prends un exemple virtuel, vous leur dites, voilà, j'ai un fichier de 25 000 de vos clients, entre guillemets, de la CAF, je vous les rends que si vous me versez tant.
Voilà, donc ça c'est le business d'aujourd'hui, des cybercriminels.
Et là, il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas de sang,
c'est ça.
Vous ne braquez pas une banque avec des Kalachnikov. C'est comme ça.
Ouais. C'est ce que disait le général, que d'ailleurs je souhaite remercier de m'avoir présenté à vous, général Patinogouar, qui est fondateur de lui.
C'est un de ceux qui a entendu parler de moi parmi les tout premiers, alors que mon nom n'était pas connu, d'ailleurs il n'est toujours pas tellement. Mais,
dans la cyber, si.
Oui, sauf les... Patinogouar m'a contacté un jour, ce général m'a contacté. Était-il déjà général? Je ne crois pas. Il devait être colonel, peut-être, je ne sais pas. Et il m'a dit, écoutez, monsieur, ce que vous avez écrit nous facilite maintenant dorénavant les choses pour nos enquêtes, parce qu'au moins, il y a une sanction qui n'était pas tellement prévue. Et il m'a engagé à aller à Lille, un grand colloque cyber qui a lieu, et même faire un exposé devant une salle où il y avait beaucoup de monde pour dire ce qu'était la loi. Donc c'est quelqu'un qui lui aussi a été un précurseur, parce que dans sa maison, la gendarmerie, c'est-à-dire, c'était pas évident aussi d'expliquer ça. Mais il l'a fait et il a réussi.
Oui, il a très beau travail.
Très bon travail.
Et s'il y aurait d'autres personnes en politique que vous citeriez pour la cyber, vous pensez à qui ?
Écoutez, à l'époque, il devait y avoir un sénateur qui s'en occupait, mais j'ai oublié son nom. Par contre, il y avait quelques avocats qui déjà étaient très bons. Très, très bons. Je ne me demandais pas les noms parce que je ne m'en souviens plus, mais il y a eu 2-3 avocats de très grande qualité. Je dois dire que j'ai eu aussi une collaboratrice parlementaire à l'époque qui s'est passionnée là-dessus, qui s'appelait Madame Corinne Moisan, qui maintenant fait tout à fait autre chose dans la vie, plus de l'humanitaire qu'autre chose, et fort bien. Eh bien, elle a pris une grande part à la rédaction technique de la loi.
Ah oui.
Parce que c'est bien d'avoir une idée comme ça, il faut sanctionner, mais après, il faut le traduire en article de loi, et en paragraphe, et elle l'a fait fort bien.
Et comment vous avez choisi, entre guillemets, les peines encourues? C'est-à-dire le dosage, parce que le cybercrime, il n'était pas ce qu'il était aujourd'hui.
Non. Comment on l'a choisi? J'allais dire au pif. Presque ça, oui. Ben, on a regardé les... comment dirais-je? On a regardé le coût de la cybercriminalité, à peu près combien ça coûtait à l'entreprise. Je pense beaucoup aux banques en ce moment. Voilà, quand on s'est aperçu que des sommes entières étaient détournées par la cyber, on s'est dit, il faut cogner. Et ça va loin, les peines maintenant vont loin.
Tout à fait.
Sinon, mais au début, soyons clairs, c'était pas si populaire. Parce que celui qui était marrant, c'était on l'appelait le cycliste, le gars. Le hacker à l'époque, enfin le hacker d'aujourd'hui, il y a un cycliste qui est passé.
Cycliste,
cycliste, oui.
Ah, d'accord.
Mais ça, cette dénomination a disparu depuis. Mais au fond, c'était le petit contre le gros.
Oui.
C'était le petit gars qui joue avec son ordi et, contre les puissances d'argent. Donc il est sympa. Il est sympa. Et certains m'ont dit, mais enfin, tu vois, tu défends les puissances d'argent. Je dis, mais non, c'est pas ça, je les défends pas. Je défends des gens qui, pour finir, ont des clients qui sont leurs clients dans les banques, c'est-à-dire vous et moi.
Mmh, tout à fait. Oui.
Et là, c'est... Mais au début, j'ai eu du mal parce que je passais un peu pour le gars qui était contre le petit anard du coin qui se marrait, quoi.
D'ailleurs, vous avez des anecdotes peut-être sur des difficultés que vous avez rencontrées.
Oui, oui, j'en ai plusieurs. Ouais. Ben, une en particulier, oui, parce que à part le petit gars sympa, enfin le petit hacker du coin sympa, pour finir sympa, qui apparaissait sympa, mais qui n'était pas, parce que le résultat de ce qu'il faisait, c'était grave. Non, en fait, soyons clairs. Hein, à l'époque, je suis tombé avec, je faisais des recherches. Hein, sur des administrations elles-mêmes qui fraudaient. Il n'y avait pas de sanctions graves. Alors, je prends un exemple, tant pis. Hein. À l'époque, les directions départementales de l'équipement, par exemple, avaient des calculs à faire pour la construction d'un pont, ça tombe bien. Plus tard, il y a eu celui Millau.
Oui, dont vous êtes à l'œuvre.
Un des pères. Pas le seul, loin de là. Un des pères, oui, pour les autorisations, pour le côté administratif, si vous voulez. Puis, convaincre la population.
Oui.
Ben, vous voyez aujourd'hui le mal qu'ils ont sur les nouvelles autoroutes.
Bien sûr.
Et moi, je n'ai pas eu de mal parce que je suis allé au-devant des gens. Et je leur ai dit, le bouchon de Millau, il vous pénalise. Hein.
Le trou noir, je crois, c'est ça.
5 heures de bouchon.
Ouais, c'était terrible.
Donc, pour les Millavois, d'abord, leur réputation était entachée. Bon, et donc, je n'ai pas eu de mal à... Il n'y a pas eu de manif, il n'y a pas eu tout ça. Alors je reviens au pont.
Oui.
Je veux dire que pour construire un pont, il y a des calculs de résistance au vent, résistance à des tas de choses, hein. Des matériaux. C'est très compliqué construire un pont, l'air de rien. Et je me suis aperçu quand même quelques calculs de construction de certains ponts avaient été faits en pompant, comme disaient les élèves ou les étudiants, des. D'autres calculs.
Ah oui, c'était courant.
On m'a dit, mais ça, je n'en suis pas témoin, puis je suis prêt à me dédire. On m'a dit qu'à une certaine époque, mais il y a prescription, heureusement, l'INPI elle-même, l'Institut national de la propriété intellectuelle, copiait son droit parce que c'est commode. Et que quand les inspecteurs sont arrivés au rez-de-chaussée, bon, le bas de combat au premier étage, tout a disparu. Mais je veux dire.
Oui, c'était que, courant.
C'était comme ça. Je veux dire, il n'y avait pas de sanctions. C'était commode. Ça économisait de l'argent. Alors, si quelqu'un de l'INPI porte plainte contre moi, je suis prêt à retirer ce que j'ai dit. Oui. Pour pas avoir... Mais c'est ce qu'on m'a dit. Il y a eu. Alors, un jour, ma loi est en train d'être préparée, ça se sait. Bon, j'ai pas honte, au contraire. Je reçois un appel de la secrétaire de la ministre de l'Enseignement supérieur, qui à l'époque était Madame Alliot-Marie, célèbre.
Michel Alliot-Marie.
Alors, bon, ben, elle me tutoie, je la prends au téléphone, elle me tutoie, je la connaissais très bien. Elle me dit, tu peux passer me voir au ministère. J'ai dit, oui, j'arrive. Le ministère était placé sous la montagne de Sainte-Geneviève, près de Polytechnique. Enfin, je ne sais plus où ils sont maintenant. Et alors, elle m'accueille, je vois qu'elle m'accueille, mais elle n'avait pas le sourire habituel. Ah, je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, voilà, je voulais te voir parce que tu es en train de préparer un texte de loi qui va nous ruiner. Et mon budget est tel que je peux... Je dis, attends, de quoi tu parles? Elle me dit, si, tu prépares un texte pour supprimer la copie sans droit. Je lui dis, ben oui. Je lui dis, mais attends... C'est normal, quand même. Les professeurs qui acceptent de faire dans tous les domaines des polycopes, ce qu'on appelle les
polycopiés,
à la fac ou je ne sais où, est-ce qu'ils touchent quelque chose parce que c'est leur travail intellectuel, ces cours? J'en sais, certains doivent toucher, puis d'autres s'en foutent. Bon. Mais toi, ce que tu fais aussi, tu copies sans droit. L'enseignement supérieur, vous faites des ouvrages, des livres dont le contenu a bien un propriétaire intellectuel. Mmh. Alors, il peut écrire des ouvrages et ça, il faut bien vivre tous les jours. Or, la propriété intellectuelle, tu sais, pourquoi Voltaire, pourquoi d'autres sont allés éditer à Amsterdam ou à Genève ? Pas pour des raisons religieuses avec les protestants, mmh. pas du tout. C'est parce que là, il y avait déjà une protection de ceux qui écrivaient des livres. Oui, oui, oui.
Ah, d'accord.
Et ce qu'on appelle... Alors, ça a commencé avec Charles Cros, qui a... l'Académie Charles Cros, c'est connu maintenant. Mais quelqu'un qui faisait une chanson, aucun droit. La Marseillaise, l'auteur, Rouget, aucun droit.
Aucun droit, ouais.
N'importe qui faisait de la musique. Hein. Et heureusement que... Alors, l'assassin a de bon et de moins bon côté. C'est-à-dire que quand vous êtes organisateur d'un bal ou d'une soirée festive, vous avez un inspecteur qui vous dit combien de recettes avez-vous fait. Et, enfin, on a tous organisé des bals quand on était étudiant. Mais chaque fois, j'avais à reverser quelque chose à la SACEM, qui était très impopulaire pour nous. Mais en réalité, le gars qui a écrit, non pas Cerisier Rose et Pommier Blanc, mais les chansons d'aujourd'hui, ben, il vivait dans la misère. Et grâce au droit de propriété intellectuelle, il a touché un petit quelque chose chaque fois sa chanson. Et elle passe d'autant plus que maintenant, il y a des moyens de diffusion de la chanson. Ce n'est pas l'orchestre du samedi soir.
Oui, bien sûr.
Le cahier des morceaux est tenu par le chef d'orchestre. Et à la fin, il y a l'inspecteur de la SACEM qui note les... on est dans un autre monde aujourd'hui. Oui. Puisqu'il y a le streaming, il y a la musique. Qui peut faciliter le fait de reverser à l'auteur lui-même une redevance sur ce que, parce que c'est lui qui a bossé quand même.
Bien sûr.
Il y a droit.
On a même maintenant des intelligences artificielles qui deviennent des artistes, donc on passe encore dans un autre monde.
Oui, c'est vrai.
Mais c'est vrai que votre loi, elle a permis d'être bien plus qu'une béquille, finalement, pour la propriété intellectuelle également.
Exactement.
C'est
tout à fait.
L'intrusion informatique, mais aussi tout ce qui. Les conséquences derrière.
Ils s'en sont servis et ils ont eu raison pour finir. Cette loi est allée au-delà de mes espérances, on va dire.
Tout à fait. Hein. Et on en parle aujourd'hui, vous voyez.
Alors, je reviens à Michel Alliot-Marie qui continue son pamphlet, et je lui dis, mais écoute, on va prendre un exemple. Tu es prof de technologie dans un lycée technique. Tu es prof, il y a une section mécanique automobile. Sauf que tu veux montrer aux élèves comment on démonte un carburateur. Elle me dit, oui, où veux-tu en venir? Mais c'est simple. C'est simple. Tu n'as pas la voiture à démonter. Le rectorat ou l'inspecteur d'académie t'a pas fourni une voiture à démonter neuve. Comment tu fais ? Elle me dit, oui, c'est vrai. Et je vais lui dire, tu voles une voiture dans la rue. Tu voles une voiture, c'est-à-dire toi, agent de l'État, prof, tu te rends complice d'un vol d'une voiture pour la nécessité de l'enseignement des élèves de cette voiture. Donc voilà, l'utilité finale.
Une bonne comparaison.
Tu te justifies, mais en même temps, tu es devenue une voleuse. Quand même, Michel, c'est pas ton genre. Voilà. Ouais, et pour finir, avec cet argument-là, elle a obtenu des budgets supplémentaires pour l'équipement des labos de recherche, etc.
Bah justement, est-ce que vous avez senti après la mise en place de cette loi et quand elle a commencé à être connue aussi, que les entreprises, les organisations étatiques, etc., commençaient à vraiment se protéger maintenant?
Ça a poussé. Ils le veulent bien. C'est pas obligatoire,
mais
enfin, quand ils voient les résultats, et puis surtout, il y a quand même la nécessité par rapport à des, disons le mot, des puissances étrangères.
Oui.
Je lance une hypothèse qui m'appartient, donc je prends tous les risques pour le dire. Quand l'aéroport de Toulouse-Blagnac a été racheté avec un capital chinois, c'est pas pour avoir un aéroport en France. Non, non. C'est pas loin de Thalès, à Toulouse, pas loin du tout d'Airbus. Et à distance, on peut pomper. Voilà. Depuis, je crois que des démarches diplomatiques ont été faites pour qu'ils cèdent leur part. Ils ne sont plus dans le capital de Toulouse-Blagnac. Mais c'est ça la réalité. On pompe les données. Quand on est à quelques centaines de mètres, vous pouvez tout avoir.
Ah oui. bien connu dans notre monde à nous, hein, de la cyber. Et cette ingérence qui nous fait souffrir. Ouais. Bon, bah, très bien. Pour terminer ce podcast, oui. Est-ce que vous avez un message à transmettre, peut-être, je ne sais pas, aux nouvelles générations,
oui,
un mot?
Bien sûr. Bien sûr, parce que les jeunes sont maintenant très compétents sur le sujet, je veux dire, grâce à des écoles en particulier. Mais c'est plus du tout un jeu. Au début, c'était un jeu. Quand dans la loi, était, tout le monde m'a dit « Monsieur, rien, t'inquiète pas, c'est des petits marrons qui font ça. » quoi. Et puis aujourd'hui, c'est plus du tout des petits marrons. C'est ou des puissances étrangères qui veulent pomper dans les données scientifiques et techniques d'un pays, comme la France d'ailleurs, ou dans les données techniques et scientifiques de grandes entreprises, où la propriété intellectuelle sur ce qu'elles ont suscité dans leur service de recherche, ça, un laboratoire pharmaceutique qui invente une molécule, je veux dire que c'est le pactole. Si cette molécule guérit, bien sûr, et soigne. Ce qui veut dire que c'est un droit de vie et de mort sur l'entreprise que l'on a. Quand on a ces données, à la fois scientifiques ou comptables ou financières, on la tient.
Oui.
Donc c'est un droit de vie et de mort sur l'entreprise. Mmh. Donc voilà. Donc vous, le jeune hacker qui fait ça un peu pour se marrer au début, pensez aux conséquences. Voilà.
Voilà, le mot est passé. Monsieur le ministre, merci beaucoup.
Avec plaisir.
C'était vraiment très instructif et je suis sûr qu'il va y avoir beaucoup de monde qui va regarder ce podcast. On va mettre tout ça dans le marbre. Merci pour tout.
Merci. Bonne soirée.